sur RFI.
19h10 à Paris, c'est l'heure de retrouver Philippe Le Caplain pour l'émission Idées en direct du Club France. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, merci à vous Alexis Guilleux.
Idées est en direct du Club France avec Philippe Le Caplain.
Bienvenue dans Idées consacrée une fois encore à l'approche intellectuelle du sport. Et ce soir, nous nous intéresserons à l'art de perdre. Car ici, aux Jeux Olympiques, il y a eu plus d'athlètes perdants que de gagnants en médaille, plus de déceptions que de satisfactions et plus de désillusions que de pamoisons. Les larmes ont été de joie sur les podiums et de tristesse dans les vestiaires. En même temps, tout le monde ne peut pas gagner, il faut donc se résoudre à accepter la défaite. Et d'ailleurs, les vainqueurs d'aujourd'hui ont sans doute connu des revers hier. D'ailleurs, Léon Marchand nous le dira tout à l'heure. Bonsoir Camille Hermet.
Bonsoir.
Vous êtes escrimeuse, vous maniez l'épée. La France a obtenu 7 médailles ici, dont 3 dans votre arme, mais aucune autour de votre cou ce soir, car vous n'avez pas concouru sous les belles voûtes de verre du Grand Palais. En effet, vous avez échoué à vous qualifier. Qualification au terme d'un contrôle continu, hein, tout ne s'est pas joué sur une épreuve et un seul combat, hein, c'est bien ça?
C'est ça. Ça s'est joué un an avant les Jeux Olympiques. On a un classement qui s'ouvre au niveau de la Fédération internationale d'escrime et également au niveau de la Fédération française d'escrime qui nous indique les événements à ne pas manquer, donc toutes les compétitions qui vont être qualificatives pour ces Jeux. Donc on peut se faire une idée au fur et à mesure de l'année de notre place et de notre classement parmi toutes les athlètes françaises.
Et quand est-ce que vous avez su que c'était plié pour les JO de Paris
2024 Début d'année.
Début d'année,
j'ai pu me faire déjà une idée.
Merci en tout cas d'être ici.
Avec
car
plaisir.
On accepte plus facilement de parler de ces médailles que de ces défaites.
Oui.
Et donc c'est intéressant que vous soyez avec nous. Et bonsoir Camille Andrieux.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de Le sport, une histoire de femme aux éditions de l'Aube, membre de la Cour des comptes, car aujourd'hui vous dirigez le cabinet de Rodolphe Saadé qui préside le groupe CMA-CGM. Et dans une autre vie, vous avez été basketteuse de haut niveau. Alors bien sûr, vous avez suivi tout à l'heure, c'était sur RFI d'ailleurs, la finale entre les basketteuses françaises et américaines. Comme d'habitude, à la fin, ce sont les Américaines qui ont gagné, sauf que cette fois, ça s'est joué à un point à la dernière seconde.
Tout à fait, je reviens juste de Bercy, où je voyais en effet ce match-là. Je crois qu'on est aujourd'hui pour parler de l'art de perdre, donc c'est une très bonne première question. Ça a été un match exceptionnel. Les joueuses françaises ont joué les yeux dans les yeux avec les Américaines, alors qu'elles étaient, les Américaines étaient évidemment ultra favorites. Et bien sûr que ça fait mal au ventre à la fin, parce qu'on perd d'un point sur un panier. Le dernier panier, c'est un panier français qui fait qu'on remonte de -3 à -1. Mais ça a été un match exceptionnel.
Bonsoir Laurent David Samama.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé justement « L'éloge de la défaite » aux éditions de l'Aube, là encore. Ce titre accrédite les poncifs qui veulent que perdre fait du bien, que sans défaite, il ne peut pas y avoir de victoire. Et vous affirmez finalement que la France aime les perdants, ce que vous appelez les petits poussets, c'est-à-dire.
Oui, bien sûr. C'est un livre dans lequel on va un peu plus loin que les poncifs d'ailleurs et où on raconte aussi notre appétence pour la défaite ou notre goût en tout cas pour le romantisme qui peut se greffer autour. On est un pays, contrairement aux Américains qui ont un culte de la victoire, chez nous, on peut accepter de perdre si dans le cas où on perd avec les honneurs, avec la manière et avec une certaine idée du beau jeu, du beau geste et du romantisme. Et à ce titre-là, la défaite en basket de l'équipe des femmes contre les États-Unis là, qui vient de se terminer me semble s'inscrire dans ce cadre-là. C'est pas passé loin, c'était un très beau match et on sent que c'est prometteur pour les années qui viennent. On sent que c'est une défaite qui annonce peut-être des victoires dans le futur.
Franck Seguin, vous êtes également dans le studio de RFI ici au Club France. Vous êtes photographe sportif, responsable du service photo de l'équipe. Vous avez fait combien de photos tous les jours, puisque vous avez travaillé lors de ces JO et pas simplement en desk pour faire de l'édition sur le terrain?
Je fais rarement d'édition, mais oui, en fait, sur ces JO, j'ai travaillé en tant que photographe avec mon staff qui était au nombre de 14 photographes. Écoutez, on a fait à peu près 6 à 8000 photos par jour. Personnellement, sur un événement, ce matin j'étais à l'haltérophilie, j'ai pu faire féminine, j'ai pu faire 2000 photos, mais j'en ai envoyé que 60. Donc le nombre est considérable parce qu'on ne travaille plus avec des pellicules, mais avec du digital. Et on fait un gros editing immédiat pour envoyer les photos en live.
Et le lendemain, dans le journal Équipe, combien de photos à peu près tous les jours sont publiées sur cette masse que vous envoyez les uns les autres?
Je dirais une soixantaine. Mais bon, les photos, c'est le journal de lendemain, mais c'est celui du surlendemain, du jour d'après et de l'année suivante pour les magazines et autres.
Beaucoup de photos de victoire, bien évidemment, mais aussi de défaites. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Il y a plusieurs manières de perdre, d'ailleurs. Il y a des défaites qui sont transcendées en victoire, comme le fait le Tchadien Israël Madaye au tir à l'arc. C'était devant François Mazet.
Je suis fier de mon parcours parce que j'arrive ici en tant que qualifié. Déjà, arriver ici, c'est une victoire pour moi. Et on va continuer toujours à travailler, ne pas lâcher. Aussi, c'est l'expérience, c'est mes premiers jeux. On ne lâche rien, il faut toujours travailler. Franchement, un grand merci. Et à tout le peuple tchadien qui ne cesse de m'envoyer des messages d'encouragement. Être ici, c'est une victoire.
Et à l'inverse, cette défaite de Marcela Sokobi, boxeuse congolaise, qui n'accepte pas d'avoir perdu, comme nous le racontait Martin Guèze.
Inconsolable, Marcela Sokobi s'est écroulée de tout son long sur le ring, refusant de quitter la scène avant finalement d'être transportée par des officiels congolais. La boxeuse et son clan ont ensuite vite filé. Ne restait que Michel Tobo, côté RDC, journaliste pour Actualité CD, un brin désemparé.
Très déçu, elle ne voulait vraiment pas sortir au premier tour. Marcela, techniquement parlant, est supérieure. Que voulez-vous? C'est la loi du sport, il faut savoir accepter également la défaite.
Cette fameuse loi du sport, Camille Hermé, qu'est-ce qu'on ressent quand on a échoué?
Alors, il y a différentes phases. Quand on échoue, alors déjà, ça dépend de l'événement. Plus l'événement est gros, plus la déception est importante. Après, ça dépend. Je pense que la déception, quand on perd, c'est vraiment sur le moment. En fait, souvent pour une compétition ou un événement, on travaille longtemps et beaucoup dessus. Donc forcément, quand on ne gagne pas, on est tout de suite déçu. Mais après, comme à chaque compétition, on essaye de se remettre de cette défaite. Et après, par exemple, si c'est une défaite en finale, on peut se dire qu'on a quand même eu une médaille, que voilà, on est quand même dans le mood de la victoire et qu'on peut vraiment la prochaine fois pourquoi pas gagner, donc c'est vraiment super entraînant. Après, quand on perd vraiment tôt comme on vient de l'entendre, c'est vrai que ça peut être un peu destructeur. Je pense qu'il faut vraiment être préparé quand on arrive en compétition à être prêt à perdre plus qu'à gagner.
Camille Andrieux, je le disais, vous avez été basketteuse. On s'en veut quand on échoue, notamment quand c'est la quatrième place, hein, c'est la pire, je crois.
Oui, ouais.
Je pense qu'il y a en effet, il y a plusieurs types de défaites. Si on regarde les Jeux de Paris 2024, si on prend deux exemples. L'exemple de Félix Lebrun au tennis de table. Il perd en demi contre le champion olympique chinois. Il dit lui-même, je crois, de sa propre expression très directement, « je me suis fait démonter », entre guillemets, hein, je le cite, de manière très sincère. Mais ce qui est intéressant, donc il perd, il l'admet tout de suite. Et deux jours après, c'est donc non plus les compétitions individuelles, on passe aux compétitions collectives, en équipe, avec son frère et son coéquipier. Il rejoue le même joueur chinois, il perd à nouveau, mais cette fois-ci pas 4-7 à 0, il gagne 1-7. Il joue aussi, il fait vraiment face aux joueurs chinois, il progresse largement. Et donc on voit que dans ce type de défaite-là, il y a une capacité de rebond qui est très importante.
Justement, Laurent David Samama, dans votre livre intitulé « L'éloge de la défaite », vous faites bien la différence entre la défaite en sport individuel et la défaite en sport collectif.
Oui, bien sûr. Il me semble que les deux ne sont pas de même nature, même si les deux peuvent faire très mal et peuvent engendrer des dommages. Il me semble que quand on perd en équipe, on perd ensemble et on peut se réfugier aussi sur l'erreur d'un coéquipier, sur la faillite d'un collectif, sur une équipe en face aussi qui était peut-être meilleure. Quand on perd seul, la défaite individuelle est assez cruelle, est assez rude, puisque on s'en veut à soi-même et on sait que c'est sur soi qu'on peut compter ou c'est ces défaillances qui ont fait que le résultat n'est pas au rendez-vous. Et il me semble que pour trouver les ressources du rebond, pour participer à la compétition qui va venir, pour remettre son titre en jeu, pour retrouver une motivation au jour le jour, pour s'y remettre, en fait, pour mettre le bleu de chauffe et mouiller un peu le maillot, dans ces cas-là, c'est difficile. Et il faut être entouré de beaucoup de monde. Et on voit d'ailleurs une évolution assez intéressante du sport individuel, c'est quand même tous ces sportifs, que ce soit au tennis, que ce soit en athlétisme, du tir à l'arc, au judo, avoir des staffs étendus. Ils sont certes seuls sur le tatami, certes seuls sur le terrain et pendant le match, mais ils ont autour d'eux, avant et après, tout un staff qui va du préparateur physique, mental, psychologue, nutritionniste aussi, voilà, pour tenter d'aborder ces
Justement, je propose d'écouter Léon Marchand. 16 médailles d'or pour la France, il en a fait un quart. Directement. La France cinquième à la fin de ces Jeux. Un champion qui a remporté donc 4 médailles d'or en natation, mais qui s'était préparé à la défaite. Et il le disait l'autre jour, ici même, sur RFI.
Travailler sur l'après-échec et l'après-victoire. Donc, dans tous les cas, j'apprends beaucoup. Je suis passé par beaucoup d'échecs, justement, mais quand j'étais plus jeune. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, justement. Pendant la période du Covid, pour moi, c'était très, très difficile. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler, justement, mentalement. Et je m'en suis servi, je pense, pour être plus fort. Et depuis, c'est vrai que mentalement, c'est de mieux en mieux. Je travaille vraiment sur ça tous les jours. Et en fait, il le fallait parce qu'il y avait quand même de la pression sur mes épaules. J'étais au rendez-vous.
Laurent David Samama, malgré son triomphe, Léon Marchand présente des faiblesses, selon vous. Il est humble, il n'est pas le plus impressionnant physiquement aussi?
Non, je trouve qu'il représente bien la nouvelle génération de sportifs. C'est-à-dire que physiquement, alors c'est un athlète, c'est un bel athlète et c'est quelqu'un de hors norme et qui a des capacités autres que ce que nous avons, nous, communs des mortels. Mais en tout cas, il est moins impressionnant au niveau de la carrure qu'un Michael Phelps, auquel on le compare maintenant beaucoup, champion américain, triomphant, géant, charismatique, très bon client des médias. À ce titre-là, Léon Marchand ressemble quand même au petit Français qui est doué, mais en tout cas qui en impose beaucoup sur son terrain de jeu, mais dans la vie un peu moins, et qui est assez humble. Il me semble aussi que c'est un signe des temps d'être dans une certaine forme de normalité, de retour à une norme et de savoir dire que, savoir concéder qu'on n'est pas une machine en tout cas.
Franck, Léon Marchand le raconte bien. Vous avez photographié beaucoup de vainqueurs durant ces JO.
Notamment Léon Marchand.
Et notamment Léon Marchand, absolument. À l'inverse, quand vous photographiez des gens qui viennent d'échouer, qu'est-ce que vous voyez dans le cadre de votre appareil photo? Ce sont des larmes, ce sont des crispations, des rictus, c'est quoi?
Ce que je vois, c'est ce que je recherche avant tout dans une défaite, c'est le signe de la détresse de l'athlète, pour que ma photo soit émouvante, pour qu'on puisse transmettre des sentiments de détresse au lectorat qui va lire le journal le lendemain. Donc ça, c'est une partie assez complexe dans la défaite, c'est de pouvoir capter l'émotion de l'athlète qui a tout investi et qui, au bout du compte, échoue au pied d'un podium, au fond d'un bassin ou sous un panier de basket. Ça, c'est le travail du photojournaliste, d'essayer de retransmettre cette émotion-là.
Est-ce que vous avez certains sportifs qui vous ont demandé des photos de ces moments difficiles, ou au contraire, ils disent non, moi je ne veux encadrer dans ma chambre que la médaille?
Jamais. Les sportifs n'aiment pas se voir en tant que perdant. Très souvent, ils veulent des photos de la compétition. Ça, mais jamais de l'instant qui retransmet leur défaite. Je pense que peut-être ça pourra changer dans les années à venir, mais j'ai l'impression qu'ils apprennent d'une défaite, mais qu'ils ne veulent pas s'en souvenir en tant que tel. Donc très souvent, enfin c'est jamais, on me demande, tiens, tu peux me donner là où j'ai trébuché, il me faudrait cette photo. Non, je ne l'ai jamais eu.
À l'inverse, Camille Hermet, quand vous ôtez le masque, hein, je rappelle que vous faites de l'épée. Vous savez qu'on va saisir qu'un photographe ou qu'une caméra va saisir ce moment-là. Est-ce que du coup vous vous laissez aller ou au contraire vous restez avec vous-même et avec cet échec derrière ce masque qui cache votre visage, vos yeux et vos rictus?
Alors nous, on a un masque, donc on voit pas notre visage, surtout avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc souvent, pendant le match, quand on est vraiment triste ou qu'on sait que ça va être compliqué, ou même quand on perd, souvent, il y en a certains athlètes qui le gardent. Moi, je sais que je l'enlève. Alors, je fais un peu les deux. J'arrive à rester quand même assez stoïque, mais en même temps, j'ai beaucoup d'émotions qui montent. Et je sais que moi, j'en ai quelques-unes des images justement où je perds, justement pour me rappeler justement par quoi je suis passée, pour aussi voir une évolution. Je sais que des fois, je me dis, bah voilà, ça s'est passé comme ça, maintenant c'est différent, donc il y a une progression aussi.
Là, on parle de photos. Est-ce que vous regardez les vidéos justement pour apprendre de votre défaite sur un match, sur une compétition, pour les placements?
Oui, on a des vidéos. On fait beaucoup de, enfin, on n'en fait pas beaucoup, mais on en fait vraiment quand. Quand on en a, par exemple, je sais que sur les circuits nationaux, j'essaie vraiment de filmer au maximum. Et comme ça, on peut voir quand je réussis, quand je ne réussis pas, pourquoi. Essayer de décortiquer une vidéo et pour éviter de refaire des erreurs et pouvoir progresser.
Camille Andrieux, vous avez eu des succès, vous avez connu également des échecs. Vous vous souvenez, si vous étiez abattue, vous aviez envie de tout arrêter ou au contraire, vous avez envie d'y retourner pour montrer que vous aviez une vraie valeur et qu'il fallait compter avec vous?
L'échec, notamment, je trouve en France, il est compliqué parce que notre culture française est risque-averse, donc a du mal à faire face à l'échec. Contrairement aux États-Unis, où là, pour le coup, pour des raisons, y compris religieuses, de tradition, protestantes, plutôt chrétiennes, etc., vit mieux l'échec. Donc, bien sûr, l'échec est compliqué. Et je pense que pour le surmonter, c'est vraiment cette résilience, cette capacité de rebond qu'il faut aller chercher. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez avant aussi, moi, je trouve que voir un athlète en pleurs, si on reste sur le basket, Wembanyama hier, Gabby Williams aujourd'hui, c'est aussi important parce qu'en fait, pour le public, pour le plus grand nombre, ça donne cette capacité d'identification et de faire vivre, de transmettre les émotions. Donc c'est ça qui est beau aussi dans la défaite.
Est-ce que c'est dans la défaite d'un sportif que finalement les spectateurs, le tout venant, le commun des mortels, se dit bah, finalement ce sont des gens comme moi. C'est-à-dire qu'ils ont des failles et ils ne réussissent pas tout dans leur vie.
Oui, je pense tout à fait que ça fait partie de ça. Et je trouve que c'est ce qui est beau dans le sport. En fait, quand on réfléchit aux moments qui nous réunissent vraiment, collectivement. Pour moi, je vois le sport et la musique dans un stade ou dans une salle de concert. Et le sport, ça permet ça. Ça permet de se réunir collectivement, de vivre ensemble de la joie, des peines. Et je crois que les JO de Paris 2024 ont fait beaucoup de bien à la France pour cette raison-là. Pas que la France d'ailleurs, hein, évidemment à l'international, mais notamment en France, parce qu'il y avait une fête française, une joie française de se retrouver, de sortir aussi des débats sempiternels politiques et de se concentrer sur des émotions vécues ensemble.
Combien de temps prend la digestion d'un revers sportif? Et on va faire le parallèle avec la politique, dont on reparlera d'ailleurs tout à l'heure, pour laquelle on parle de traversée du désert. Ça dure combien de temps ce passage à vide, Camille Hermet?
Je pense que si on est bien préparé, ça peut aller assez vite. Après, je pense qu'il faut au moins quelques jours, peut-être même quelques compètes pour vraiment se remettre dedans. Après, un passage à vide, on le subit souvent par rapport aux compétitions. Donc, pour ma part, j'essaye d'être vraiment suivi pour justement qu'il soit le plus petit possible et que ça aille assez vite.
Bah vous, ça fait 7 mois, puisque c'était en début d'année que vous avez su que vous n'ayez pas au JO. Et lundi dernier, vous avez repris l'entraînement.
C'est ça. Bah oui, parce que après, je me dis 4 ans, ça passe vite. J'ai loupé une Olympiade. Voilà, la
vous
vie s'arrête pas.
Vous avez 26 ans, donc ça
c'est
va.
Ça. Oui.
À 30, à Los Angeles,
oui,
ça
oui,
devrait
c'est
faire.
Ça. Après, une saison ne fait pas l'autre. Il faut savoir encaisser et se dire, bah, de toute façon, j'ai encore une chance dans 4 ans. Donc, si on se laisse abattre, pas laisser passer sa chance, quoi.
Laurent David Samama, sur ce trou d'air après un exploit raté, après une contre-performance, vous avez réfléchi
quand
là-dessus,
de la
vous
défaite, là-dessus. Bien oui. Sûr, beaucoup. Les sportifs en parlent assez peu. Les politiques en parlent bien. Et les politiques qui sont souvent férus de sport et qui se calent un peu, qui s'appuient sur le sport comme une sorte de champ de comparaison avec leur activité propre, disent souvent que l'avantage des sportifs peut-être sur eux, c'est que la prochaine élection politique peut être assez lointaine, alors qu'en sport, on peut remettre son titre en jeu, on peut, quand on est une équipe de football, rebondir le week-end d'après, ce qui est un avantage, on peut s'y remettre assez vite. La politique a ce souci, les politiciens ont ce souci de la traversée du désert et du temps long. Souvent, quand on perd une présidentielle, par exemple, On a 5 ans pas le pour sujet. S'y remettre.
On va en reparler
c'est
tout
ça,
à l'heure.
C'est ça, bien sûr. Laurent oui,
David Saint-Mama. Je voudrais demander à Franck Seguin, quelles images, quels athlètes vous ont marqué lors de ces JO depuis 2 semaines et demie, quand ils ont raté le podium?
Ben, le dernier athlète français, c'est Jules Boyer, que j'ai photographié au plongeon à 3 mètres. Il m'a beaucoup marqué parce que le plongeon, c'est difficile. Il y a une armée de plongeurs très doués. Et je pense qu'on a un savoir-faire en plongeon. Et je pensais sincèrement qu'il serait sur le podium. Donc en même temps, je me suis beaucoup investi sur lui. J'ai absolument voulu aller photographier cette compétition. Et il a été un perdant magnifique avec des plongeons qui ont été ratés, mais des plongeons exceptionnels.
Alors qu'est-ce que vous filmez? Le plongeon raté ou son visage quand il ressort de la piscine?
Je fais un peu tout, parce qu'en tant que photojournaliste pour le journal L'Équipe, je dois un peu, sur chaque plongeon, capter toutes les phases du plongeon jusqu'à l'entrée dans l'eau. Donc j'ai un zoom qui me permet de faire des gros plans sur son visage, sur les mains, sur son corps dans l'air, dans l'espace, et évidemment à sa sortie de l'eau, où je peux essayer de capter soit un moment d'égarement ou soit plutôt un moment de motivation qui va suivre pour le plongeon suivant. Là, évidemment, il a échoué, il est terminé 8e et j'ai senti une grande détresse chez lui. Comme je m'étais beaucoup investi photographiquement sur lui, j'étais moi-même en détresse.
Peut-être que tout à l'heure, il profitera malgré toutes ces JO en participant à la cérémonie de clôture. Ce sera au Stade de France, ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Radio France Internationale. Martin Guez, avec Sarah Danat, vous êtes au Stade de France où elle se déroulera avec, on nous dit, autant de surprises et de magnificence que lors de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous en savez un peu plus?
On en sait un petit peu plus. Bonsoir Philippe, bonsoir Sarah. On est pas mal là au Stade de France. Vous êtes déjà venu, vous, et voilà, vous le reconnaissez, ce Stade de France qui a un nouveau visage. Hein.
Ouais, il est très très beau. Alors c'est vrai que je suis venu aussi pour le rugby à 7. Je suis pas revenu pour l'athlète depuis, mais là il est magnifique. En plus, on a les répètes juste devant nous. On s'éclate.
Alors ce qu'on peut vous dire déjà, Philippe, c'est qu'on va avoir d'immenses anneaux olympiques un peu en bois, un peu suspendus, qui vont s'élever ici dans ce Stade de France qui a changé de visage. En moins de 12 heures, on a installé une scène géante qui apparemment prend normalement 5 jours à être installée. On va faire le passage de relais hein, pour la cérémonie, pour les prochains JO de 2028 à Los Angeles, c'est comme le veut la coutume. Donc on aura droit à pas mal de références franco-américaines. On va avoir des groupes très populaires aux États-Unis, des groupes français comme R ou Phoenix. On nous promet aussi l'incontournable Snoop Dogg hein, qui était partout, qui a vécu ses meilleurs jeux hein, pendant la quinzaine.
Sa best life, même.
Exactement, sa best life. Vous l'avez croisé, Sarah Danat?
Non, je regardais sur Instagram, il faisait vraiment pouffer de rire. C'était très très bon.
Oui, il a fait vous aurez peut-être pu lui donner quelques cours d'escrime. On l'a vu faire un peu d'épée, Snoop Dogg.
Je l'ai croisé quand même au breaking et du coup, je pense que pour le coup, je lui aurais peut-être donné des cours d'escrime, il aurait donné des petits cours de danse avec ses petits pas fameux de Snoop Dogg. Quoi.
On va voir aussi les plongeurs dont vous parliez avec votre invité Philippe Le Caplain, puisque les 205 délégations défileront avec les porte-drapeaux de la cérémonie de clôture, qui ne sont sûrement pas les mêmes que la cérémonie d'ouverture. On va sûrement rendre hommage aux volontaires, on va rendre hommage aux marathoniens qui ont couru ce matin. Elles vont être récompensées, les Sifan Hassan, l'Éthiopienne, et puis la numéro 2 éthiopienne, et puis la numéro 3 kenyane recevront leur médaille ce soir. On va avoir droit ceux qui ont participé au Marathon pour tous. Vous savez, cette course hier soir très tard dans les rues de Paris, magnifique, qui a été une belle fête populaire. Enfin voilà, on va en prendre plein les yeux. Et normalement, un petit film de 15 minutes.
Combien de temps, Martin?
Et ben, j'étais en train de vous le dire, ça va durer 2h39 cette cérémonie précisément. Je ne sais pas si on va respecter exactement le timing. Ça démarrera à 21h heure française, ça s'arrêtera un petit peu avant minuit. On va normalement avoir pas mal de stars américaines et françaises de la chanson, du monde de la culture. Et puis on va avoir un spectacle avec pas mal de tableaux dont le secret a été bien gardé du côté de Thomas Joly, le chorégraphe de cette cérémonie, qui était le même que la cérémonie d'ouverture.
Eh bien écoutez, vous nous avez donné envie. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. Vous écoutez Radio France Internationale.
ID est en direct du Club France. Avec Philippe Le Caplain.
Et dans l'idée, nous nous intéressons ce soir au revers de la médaille. Il y a l'exploit, bien sûr, et la récompense pour les 3 premiers sportifs, et pour tous les autres, bien plus. il y a une défaite. Camille Hermet, lors de ces Jeux Olympiques, vous êtes laissé emporter par la liesse à chaque fois qu'une médaille, notamment française. Mais est-ce que vous avez eu un petit regard, et un regard compatissant ou complice, avec tous les autres, et bien plus encore? On est sur combien de milliers d'athlètes qui participent ici au JO? C'est colossal.
9000, je crois.
Ouais, et combien de médailles à l'arrivée? C'est quelques centaines.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors oui, j'ai beaucoup regardé ces jeux, surtout l'escrime qui est magnifique à la télé, surtout au Grand Palais, c'était incroyable. J'ai eu beaucoup de regrets pour les fleurettistes dames par équipe, par exemple. Je sais qu'elles étaient vice-championnes olympiques en titre. Et c'est vrai que ça fait toujours un peu, surtout dans sa discipline. Alors il n'y a pas que elle. J'étais aussi un peu déçue pour l'épée homme et l'épée dame, évidemment, qui ont fait l'épée dame qui a fait vice-championne olympique par équipe et individuelle. Alors c'est vrai que c'est génial parce que ce sont des très belles médailles, mais on a toujours ce regret que moi j'étais pour que la France ait la médaille d'or, donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu de regret, mais comme je disais tout à l'heure, quand on prend du recul, c'est quelque chose d'incroyable.
Camille Andrieux, je rappelle que vous avez écrit Le sport, une histoire de femme. Est-ce que l'échec est plus compliqué pour les femmes dans l'histoire du sport? Parce qu'elles ont d'abord dû prouver qu'elles existaient. On sait que Pierre de Coubertin, qui a réinventé les Jeux modernes, était misogyne au possible. Donc ça a été très difficile pour elles de se faire une place.
Tout à fait, ça a été très difficile. Vous parlez de Pierre de Coubertin, Alice Mia et son parallèle féminin. Alice Mia, elle a essuyé beaucoup de revers. Elle s'est battue au début du XXe siècle pendant de longues années pour la reconnaissance de la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Parce qu'il faut se représenter qu'en 1896, quand les Jeux Olympiques modernes reprennent, les femmes ne sont pas admises. Et donc Alice Mia se bat, fait face à des échecs, et en 1922 permet la première édition des Jeux Olympiques femmes à Paris. Donc oui, je pense que l'échec, il est le même, que ce soit des hommes ou des femmes. Ce qui est peut-être différent pour le sport féminin, c'est que mon sentiment, c'est que certaines sportives se battent pour plus gros qu'elles-mêmes. Un exemple, Billie Jean King, qui est connue, donc une tenniswoman américaine, connue pour la bataille des sexes en 1973, qui était en fait une compétition de tennis qui avait été suscitée par Bobby Riggs, qui était un tennisman professionnel de 55 ans, qui par provocation lui a demandé de se battre contre lui pour voir la bataille des sexes qui serait gagnant. Elle ne voulait pas faire ce match-là. Elle l'a fait parce qu'elle avait conscience que si elle échouait ou si elle faisait un refus d'obstacle, ce serait plus gros qu'elle. Ce serait la condition des femmes qui en tirait parti. Et donc, in fine, elle gagne le match. Donc, l'honneur est sauf et les femmes sont sauves aussi.
Et la situation a bien changé puisque une des médailles d'or, c'est l'équipe de France de judo mixte. Les garçons et des filles. Alors, bien sûr, les garçons contre des garçons et les filles contre des filles. Mais ça, c'est nouveau dans les Jeux Olympiques. Enfin, la mixité, cette mixité, elle n'existait pas auparavant. Enfin, en tout cas, il y a très longtemps, elle n'existait pas. Donc, il y a vraiment une évolution des Jeux Olympiques et du sport en général. Vous écrivez également, Camille Andrieux, que le sport, là, on est au-delà de la défaite ou de la victoire, est un catalyseur pour l'émancipation des femmes.
Oui, ça l'a été historiquement, ça l'est toujours aujourd'hui. Un exemple, je pense que ça vaut mieux que mille mots, l'exemple de Suzanne Lenglen, pareil, de XXe siècle, cette grande tenniswoman professionnelle. Donc elle a révolutionné le jeu du tennis par son style qui est de jeu incroyable, mais aussi par le fait qu'elle casse les codes. Elle casse les codes vestimentaires notamment. À l'époque, il faut se représenter au début du XXe siècle, quand les femmes en tennis jouent, elles jouent avec des chaussures rigides, elles jouent avec des corsets, elles jouent avec des épingles dans les cheveux. Elle casse ces codes-là, Suzanne Lenglen. Et elle commence à jouer avec des jupes qui vont juste en dessous du genou, avec des chaussures souples, avec des t-shirts, etc. Et donc elle devient un icône aussi pour l'émancipation des femmes, parce qu'à nouveau, elle représente plus qu'elle-même. Et il y aurait bien d'autres exemples, y compris, il y a un exemple toujours intéressant aux Jeux de Paris 2024, c'est la délégation des réfugiés, dont on parle assez peu.
On a parlé ici sur RFI.
Je n'en doute pas. Ah, oui. Et il y a des femmes qui portent des combats qui sont magnifiques. Je pense à cette danseuse afghane qui portait sur elle le Free Woman in Afghanistan. Je pense à Massoma Alizada, qui est une cycliste afghane aussi. Donc oui, les femmes portent de beaux combats également.
Victoire et défaite en alternance, y compris durant la même compétition. Et là, ça nous ramène à Noah Lai, c'est un athlète. Après son sacre sur le 100 mètres, qui est l'épreuve reine hein, des Jeux Olympiques, il a vécu une toute autre soirée lors du 200 mètres. C'était jeudi soir. L'Américain a été battu, bien que favori, et s'est à nouveau contenté d'une médaille de bronze. Et l'après-course n'a pas été plus agréable pour lui, puisqu'il a dû être évacué sur un fauteuil. Et ça vous a particulièrement marqué, Laurent David Samama, qui avait écrit « Éloge de la défaite ».
Oui, il me semble que c'est une image intéressante parce qu'elle raconte bien le sport dans toute sa dimension épique et dans toute son héroïsme aussi. On peut gagner, être un champion, triompher et porter les valeurs de son pays. Valeurs américaines, par essence, le sprint est pour eux et le 100 mètres, la discipline phare. Donc, il la gagne, il la remporte. Noah Lai est en plus de ça une sorte d'icône pour la jeunesse américaine. Il a sur le dos beaucoup de contrats avec des équipementiers connus et des marques de toutes sortes. Donc, il incarne une sorte d'image de l'athlète.
Et est-ce que sa sortie de la piste sur un fauteuil, ça le met à terre, ça contrarie son image, ou au contraire, ça la magnifie ?
La magnifie à mon sens, parce que ça le rend humain et ça montre aussi que derrière l'effort, derrière le muscle, derrière les capacités hors normes, il y a quand même un humain et que l'homme n'est pas une machine, l'homme et la femme, hein, mais enfin l'homme avec un grand H n'est pas une machine assez défaillant. C'est d'ailleurs Noah Lyles, quand il gagne le 100 mètres, le dit, moi je suis quelqu'un, c'est une concession peut-être à l'époque assez intéressante, mais il dit je suis quelqu'un qui a de l'asthme chronique, qui souffre de dépression.
Et il avait eu le Covid quelques semaines plus tôt.
C'est ça. Et donc on le voit chuter, trébucher. En même temps, ça n'empêche pas que on sait que au JO de Los Angeles, il sera appelé à être un des champions hors normes de la prochaine. Enfin voilà.
Franck Seguin, vous êtes donc photographe à l'équipe. Vous l'avez shooté, cet athlète américain ?
Eh bien non, j'étais sur la natation à ce moment-là.
On peut être partout alors.
Donc avez... j'étais dans la victoire moi à ce moment-là, mais j'ai vu cette photo de Noël. Ouais. Et quand je vous dis j'ai vu cette photo, j'ai pas vu de vidéo. Mais j'ai vu une photo où il était effectivement sur une chaise en dépression d'air. Et j'ai trouvé ça assez fantastique comme image, parce que c'était pas quelque chose qui rabaissait, mais bien au contraire, qui l'élevait dans sa personnalité de sportif et d'homme. Et je pense que beaucoup de gens qui ont regardé ça et qui ont des problèmes de santé sont peut-être dit, bah tiens, le sport, c'est peut-être aussi pour moi. Et je pense que c'est une des missions des photographes de l'équipe et de la photo en général, c'est aussi de montrer des images de détresse positive. Il n'y a pas que les larmes du perdant, mais il y a aussi quelqu'un qui échoue parce qu'il a quand même une médaille d'argent, il échoue alors, mais il est diminué physiquement. Et moi, je pense que cette image de personne diminuée qui gagne malgré tout, qui donne de lui une image positive et qui dit aux gens, voyez, moi aussi j'ai le Covid, j'ai de l'asthme, mais je suis aux Jeux Olympiques. Et je pense que chacun à son niveau, il faut s'approprier ce genre d'image pour aller de l'avant.
Camille Andrieux.
Je pense que cette image, elle est importante, parce que je crois que ce dont on a besoin collectivement aujourd'hui, c'est de tomber les masques, c'est de montrer et de dire les choses comme elles sont, d'où l'importance de la photographie, bien sûr, et donc de montrer les vulnérabilités. Ce que Noah Lyles montre, c'est sa vulnérabilité. Je pense aussi à Pauline Ferrand-Prévot, qui parle de la santé mentale d'un sportif. Parce que, bien sûr, le sport, c'est des victoires, c'est des défaites, mais c'est aussi tout un long parcours fait d'embûches. Et je crois que montrer ces vulnérabilités-là, ôter l'habit d'apparat, c'est vraiment important pour à nouveau permettre l'appropriation collective.
Camille Hermé, vous avez parfois été blessée. Là, tout à l'heure, on parlait d'une incapacité à avoir le niveau qu'il fallait, et ça va revenir. Mais la blessure, vous l'avez connue, vous ?
Oui, je l'ai connue à plusieurs reprises. Je l'ai connue il y a 2 ans. Je me suis blessée au dos et donc j'ai été suspendue des compétitions pendant à peu près 8 mois. Et même après la réalisation, reprendre confiance en son corps, reprendre confiance en ses mouvements, en son escrime, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas si plusieurs sportifs ont eu la même chose, mais moi je l'ai vécu un peu comme une défaite. Parce que ça veut dire que notre corps lâche, ça veut dire que nous ne pouvons plus accéder aux compétitions, que des objectifs s'effacent, que des saisons sont perdues. Donc c'est aussi pour moi une défaite. Donc et je pense que c'est bien aussi de le montrer pour justement montrer cette image que se blesser n'est pas un sujet tabou, quoi.
Mais quand vous n'arrivez pas à faire une touche, c'est peut-être parce que vous avez fait le mauvais geste. Ça, vous vous en prenez à vous-même, à votre intellect.
Alors oui.
Quand c'est une blessure, vous en voulez à qui ? À votre corps, mais c'est plus difficile pour une blessure.
Oui,
on la subit plus encore.
Oui, oui. Surtout que des fois, ça arrive sur quelque chose d'assez lambda. Des fois, ça arrive à l'entraînement. Des fois, ça arrive dans la vie quotidienne. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer une blessure. Après, je pense que c'est aussi bénéfique parce qu'on peut en sortir plus fort, justement, d'être au fond du gouffre quand on est blessé, louper des saisons. Je pense qu'on se prépare mieux, on se prépare mentalement. On se dit, bah voilà, ça peut arriver que je perde, ça peut arriver que mon corps lâche, ça peut arriver. Et en fait, je pense que le fait que ça nous arrive, ça nous rend plus fort et ça nous rend justement plus libre aussi. On sait de quoi on est capable et jusqu'où on peut aller.
Votre réaction, Laurent David Samama, une fois que j'aurais fait une citation extraite de votre livre, L'éloge de la défaite. La défaite permet paradoxalement de faire perdurer le rêve, car après les victoires, on déchante. Et c'est à l'issue des moments de joie que le spleen repointe le bout de son nez. Ou bien on arrête tout, ou bien on se remobilise pour atteindre son objectif.
Oui, il me semble que la défaite permet de se remettre en scène, de montrer un autre visage de soi, un visage peut-être un peu plus positif, alors que dans la victoire, on a cette chose, cette joie intense, mais qui dure finalement assez peu, juste le temps du tour de piste finalement et de la soirée peut-être qui suit, mais en fait, le lendemain, on se remet en cause. Et on se remet en jeu. Il me semble que c'est le temps de la victoire passe très vite. Le temps de la défaite, on peut le ruminer, on peut s'y préparer, on peut se remettre en cause. Et c'est quelque chose qui peut, quand on en tire les conséquences et quand on en tire les leçons, en tirer des choses assez intéressantes. Il peut y avoir du rebond après, c'est pas forcé, il faut se méfier aussi du discours positif de positivité qui dit qu'après la défaite, on gagne forcément.
Positiver la défaite, on verra ce que ça donne en politique, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Mais avant ça, de la musique. Tout à l'heure, avec Martin Guez, on voyait que le groupe R se produira ce soir au Stade de France. Le groupe R qui se jouera donc avec notamment ce titre, Sexy Boy, qu'on va écouter maintenant sur Radio France Internationale. Avec le groupe R qui sera donc ce soir au Stade de France en même temps que le groupe Phoenix qui lui interprétera Liszt Maria. Parlons de la mixité dans le sport. Franck Seguin, vous avez photographié beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons, mais aussi beaucoup de filles, beaucoup de femmes.
Voilà, mais On photographie les hommes à un moment et les femmes à un autre moment. Et on s'est aperçu pendant ces Jeux olympiques que l'équipe de France de judo par équipe mixte, c'était une formidable expérience. Et moi, j'aimerais qu'on retrouve dans plusieurs sports ce genre de compétition mixte. Pas seulement pour la victoire d'un côté des hommes, d'un côté des femmes, la défaite, femmes, hommes, mais justement que les hommes et les femmes apprennent à gagner ou à perdre ensemble. Je pense qu'ils apprendraient beaucoup de choses sur eux-mêmes, sur le rapport au sport, mais sur les rapports sociaux aussi.
Pour les avoir beaucoup observés dans l'œilleton de votre appareil photo, est-ce que les hommes et les femmes perdent différemment, expriment différemment leurs ressentiments ?
Non, ça dépend de... Enfin, oui et non, mais chaque sportif perd avec sa personnalité. Certains l'intériorisent, d'autres crient, d'autres s'effondrent en larmes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une manière de perdre pour les hommes et pour les femmes, parce que de toute façon, on n'est pas si différent que ça. D'ailleurs, on ne doit pas l'être. Mais je n'ai pas remarqué de grosses différences. Par contre, dans la victoire... Oui, il y a une attitude commune, c'est sûr.
Camille Hermet, l'équipe de France masculine d'épée n'a pas vraiment brillé lors de ces JO, à moins que je me trompe. Alors qu'il y a sept médailles du côté de votre côté. La même question, est-ce qu'on perd différemment en fonction de son sexe ?
Je sais que oui, on a eu Yannick Borel qui a fait vice-champion olympique. Et en équipe, l'épée homme a perdu en petite demi-finale pour la troisième place. Je pense qu'un événement comme les Jeux Olympiques, c'est quand on perd, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Je pense que c'est une immense tristesse parce que le travail est tellement dur pour y arriver que je pense pour cette défaite, on est pareil. Je pense qu'on est tous déçus. Je pense que, comme vous le disiez, tout le monde... fait le deuil de sa défaite à sa manière. Donc, je pense qu'en termes de sexe, il n'y a pas vraiment de très, très, très grosse différence pour ces Jeux Olympiques. Surtout que, pour le coup, l'épée dame a vraiment bien brillé. Donc,
et en termes de résilience, l'envie d'y retourner, est-ce que c'est plutôt une qualité masculine ou féminine ?
Les deux. L'escrime étant un sport de combat... faut, quoi qu'il arrive, quand on perd et quand on prend un coup, vouloir y retourner, vouloir retourner en compétition et vouloir se battre et gagner. Ça, je pense que dans les trois armes, et que ce soit homme ou femme, on fait tous de l'escrime pour gagner sur cette piste, pour gagner son combat. Après, le jour où on n'arrive plus à gagner son combat et à avoir faim sur la piste, je pense que homme comme femme, faut arrêter.
Alors, on parle de mixité, de la mixité à la parité. Camille Andrieux, ces Jeux Paris 2024 sont les premiers à être paritaires. Cela dit, on est loin de la parité dans tout domaine. En termes de financement, on est en moyenne sur un ratio de 200 entre ce que gagne un sportif professionnel et une sportive professionnelle, c'est ça ?
Oui, peut-être déjà, c'est important de souligner en effet que c'est la première édition paritaire pour l'équipe de France en termes d'athlètes, et c'était ce que portait Alice Mia. Elle demandait justement la parité, elle a commencé en 1924, un siècle plus tard, c'est le cas. Donc c'est un très bel exploit déjà. En termes de financement, oui, on est très loin. C'est à peu près ce ratio de 200 que vous évoquez. En termes de médiatisation aussi, pour vous donner un chiffre, en France, à la télévision française, ce sont uniquement 4,5% des programmes sportifs qui portent sur du sport féminin. Donc le reste, 95,5%, c'est du sport masculin. Là, on est très loin de la parité.
Le prodige Victor Wembanyama, dont vous parliez tout à l'heure, qui a été drafté en 2023, gagne en deux matchs ce que Caitlin Clark, son équivalent en NBA féminine, met 4 saisons à gagner. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Il y a un chemin, bien sûr, l'égalité femmes-hommes a fait beaucoup de progrès depuis un siècle, mais il reste des terrains à conquérir, le sport en fait très largement partie. Et il y a des leviers pour ça. J'évoquais la médiatisation, on pourrait tout à fait, l'ARCOM, l'autorité française, pourrait tout à fait donner un quota de représentation du sport féminin à la télévision. Dans le financement, c'est la même chose. Il y a un exemple qui a été intéressant, c'est en 2019, quand les joueuses de foot féminines américaines ont fait un procès à la fédération pour discrimination salariale. Elles ont gagné. C'est des exemples qui montrent que les choses évoluent, mais oui, on est encore loin.
En politique aussi, il y a des défaites qui mettent à terre, comme Lionel Jospin, qui abandonne la vie politique au soir du premier tour de l'élection présidentielle, qui le place derrière Jean-Marie Le Pen. Il y a Juppé également, qui dira qu'il a toujours été dans sa vie. Je n'ai eu qu'une vie de souffrance. Tout ce que j'ai fait en politique, c'est mal fini. Alors qu'il a été, il a été Premier ministre. Nicolas Sarkozy, à la primaire de son parti, qui se fait laminer, alors qu'il est quand même chef de l'État sortant. Et Mitterrand, qui a dû s'y reprendre à 3 fois pour être réélu à l'Élysée. Donc la défaite, ça requinque aussi. Il ne faut pas abandonner pour autant. La défaite n'empêche pas la victoire plus tard. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, Laurent David Samana.
Oui, il semblerait qu'en politique, en tout cas pendant longtemps, il a fallu perdre et se montrer en tant que perdant aux yeux des Français dans une sorte de passage obligé, de chemin qui fait que les gens devaient, les électeurs, les citoyens devaient s'habituer à votre nom, s'habituer à votre discours, s'habituer à vous voir monter peu à peu en termes de score et en termes de pourcentage, pour ensuite faire de vous leur champion. C'était le cas de Mitterrand, qui a eu un long chemin et qui s'y est repris 3 fois. C'était le cas de Chirac, c'était le cas de beaucoup d'hommes politiques. Il semblerait qu'à l'époque de l'accélération de la communication et du temps qui se rétrécit, du temps d'attention qui se rétrécit, on ait moins de chance. Et quand on a une défaite majeure, on a peut-être moins le droit de retenter sa chance ensuite.
Au bout du bout, est-ce que finalement les politiques ne sont pas plus résilients que les sportifs ? On a dit qu'ils arrêtent finalement de faire la politique le jour où ils sont physiquement passés de vie à trépas. Alors que les sportifs, il y a forcément une date limite qui est bien plus courte.
La carrière politique peut être longue. Il y a cet adage fameux qui dit qu'on n'est jamais mort en politique et qu'on peut revenir 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après parfois dans des retours qui sont des sortes de comeback comme le sport américain parfois peut en permettre. Il semblerait que les politiciens ont le cuir tanné et la peau dure. Mais enfin, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand ils parlent, Sarkozy, Hollande, Macron sont de vrais fans de sport, de vrais connaisseurs du sport et s'appuient d'ailleurs beaucoup sur les exemples tirés de leur jeunesse pour se dire que voilà, qu'on peut gagner après, qu'une défaite n'est pas si grave et qu'on peut être inspiré par ça aussi.
Camille Andrieux, en matière de défaite, vous faites un parallèle entre sport et démocratie, c'est-à-dire ?
Oui, je pense que le sport a intrinsèquement des valeurs qui fondent la démocratie. Des valeurs de collectif, des valeurs d'humilité, des valeurs de méritocratie par le travail. Je pense que tout ça, ça fonde les valeurs démocratiques. Ensuite, en termes de fonctionnement, le sport qui fonctionne par la victoire et par la défaite, finalement, la démocratie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le plus grand nombre doit accepter un jour d'être en majorité et le lendemain d'être en minorité, que ce soit l'alternance gauche-droite ou autre. Donc oui, je crois que le sport intrinsèquement à des modes de fonctionnement qui sont applicables à la démocratie.
Oui, parce qu'en cas de défaite d'un citoyen, il a son vote qui ne permet pas d'obtenir la victoire de son camp, mais il est obligé d'accepter durant 5 ans, 6 ans, au titre de la démocratie, il doit malgré tout continuer à vivre, à investir, à travailler. Donc il y a aussi cette forme de résilience en politique. Vous en avez vu beaucoup, vous, des hommes politiques, Franck Seguin, lors de vos photographies pour l'équipe dans les stades, au bord des piscines, des tatamis, au cours de cette quinzaine.
J'ai vu beaucoup d'hommes politiques et de people. C'est un peu ce qui fédère toute cette population hors sport. C'est d'aller voir le spectacle du sport. Et on les retrouve souvent dans les grands événements. Je pense qu'ils vont pas seulement pour se montrer, mais pour assister. Parce que, comme vous le dites, ils ont pratiqué du sport dans leur jeunesse, ils aiment bien s'en souvenir, ils aiment bien s'identifier à la victoire d'un sportif, beaucoup moins à une défaite, bien entendu, mais ils peuvent en retirer toujours quelque chose.
Il y a une sincérité.
Il y a une sincérité, je pense qu'ils peuvent consoler un sportif, un homme politique peut tout à fait aider un sportif en lui rappelant que tout son travail, tout ce qu'il a investi dans son travail n'est pas vain. Parce qu'il a une parole que malgré tout on écoute, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. On sait que c'est un homme responsable, en phase avec la société.
Camille Hermet, quand vous voyez des politiques venir au plus près des sportifs, ça vous agace ou au contraire, vous dites bah, c'est une belle reconnaissance?
Non, c'est une reconnaissance parce que déjà, ils font le déplacement. Après, moi, je pense qu'ils s'y retrouvent par les...